Nous sommes le lundi 3 novembre. Voici à la une. Bon lundi, bon début de semaine. J'espère que vous allez bien. C'est Mathieu Bellumeur au microphone, content de vous retrouver. Lendemain d'élections municipales partout au Québec. Évidemment, on va consacrer une très grande partie de notre émission là-dessus. Jean-Philippe Robillard va venir nous parler des plus importantes courses, des plus importants résultats. On va résumer également ce qui se dit ce matin dans les différents quotidiens. Dépendamment de l'heure à laquelle vous vous êtes couché, ben vous en savez plus ou moins sur les gens qui sont reportés ou qui ont été élus, de nouveaux visages, de nouveaux noms, un peu partout au Québec. Essentiellement, on peut dire qu'à Montréal, Soraya Martinez-Ferrada d'Ensemble Montréal a été élue. Donc, elle a défait Luc Rabouin, son adversaire, qui était le successeur de Valérie Plante de Projet Montréal. Course serrée à Gatineau. Maude Marquis-Bissonnette remporte son pari et donc a été réélue à la tête de la ville de Gatineau. À Québec, ça s'est fait rapidement hier soir. Bruno Marchand a été, avec un fort appui, réélu maire de Québec. Il y a encore des luttes pour lesquelles on n'a pas de résultats. C'est le cas à Ville de Saguenay. Il y a des décomptes qui sont toujours en cours. Pas au moment où on se parle, il y a eu une pause pour la nuit et ça va reprendre ce matin. Donc, on n'a pas encore de résultats à la mairie de Saguenay. Pour ce qui est de la couronne de Montréal, Laval et Longueuil, bien, ça s'est joué rapidement. Stéphane Boyer à Laval. Catherine Fournier a été réélue également à Longueuil. Et Jean-Philippe va nous donner les différents résultats, les différents détails un peu plus tard. Donc, dans son compte-rendu, il va vous faire entendre également des déclarations, des discours de la victoire dans certains, de la défaite pour d'autres. Alors, on va faire le tour de tout ça ensemble. Véronique Méran est à mes côtés à cette heure-ci. Bonjour Véronique.
Bonjour Mathieu.
Alors, on s'attend à quoi comme météo? Ben, faisons peut-être le bilan du mois d'octobre. D'abord,
oui.
Ça a été un mois. Il n'y a pas eu tant de froid que ça.
Ben voilà, assurément nettement plus doux que la moyenne, même des pointes de forte chaleur dans les deux premiers week-ends. En moyenne au Québec, 1 à 3 degrés au-dessus de la normale, Montréal 2 degrés plus précisément. Et ce sont les secteurs plus au nord qui se démarquent encore une fois. Aucune neige mesurable à Coudjouac au mois d'octobre. Ça, c'est un record.
Ah bon?
Normalement, il tombe 22 cm à Coudjouac durant le mois d'octobre.
Ah oui?
Plus de soleil que la moyenne, 40 heures de plus à Montréal, Ottawa et Québec aussi, beaucoup plus d'ensoleillement. Il n'y a que la côte nord qui figure sous la normale côté heure d'ensoleillement. Et finalement, ben, en raison de la perturbation qui nous a touchés à la toute fin du mois, on se retrouve un petit peu au-dessus de la normale côté pluie. Roberval a même battu un record de pluie pour une journée d'octobre. Il est tombé 70 mm le 31. Donc, c'est un record de ce côté-là. Et à Montréal, on a reçu le 2/3 de la moyenne de la pluie en deux jours.
C'est ça, j'allais dire. On a l'impression que ça n'a pas été un mois pluvieux, mais lorsqu'on regarde les statistiques, ça peut être trompeur parce que toute cette pluie est tombée en peu de temps à la fin du mois.
Voilà. Et là, on parlait de pluie. Il est tombé de la neige en fin de semaine.
Ah, la première neige dans certaines régions.
Exactement. Les premières accumulations réserve faunique des Laurentides, les premiers centimètres sont tombés. Roberval, Bagotville, secteur de Québec aussi.
Ah ouais.
Hier matin, des flocons. On est en retard à Montréal. Bon, pas que ça dérange beaucoup. On n'a pas reçu nos premiers flocons encore, mais il y a encore quelques opportunités à venir cette semaine là, pour des flocons mouillés, disons-le.
Ah
ici.
Bon, bien allons-y avec les prévisions de la météo, justement, pour commençons par cette journée de lundi. À quoi ça va ressembler?
Une journée fraîche dans l'ensemble, mais peut-être un petit peu moins qu'hier. Hier, le maximum a été de 7 à Montréal. Là, la tendance est à l'ennuagement ce matin. Soit c'est déjà très couvert ou ça se couvre assez rapidement et on a de la pluie qui commence cet après-midi. Pluie et vent à venir, des vents du sud-ouest 40-60 km à l'heure. Alors, des précipitations qui donneront quoi? À peu près 5 à 10 mm environ. Donc, c'est pas un système qui est aussi costaud que ce qui nous a touché vendredi, mais quand même, un peu de pluie à venir à partir de cet après-midi pour Montréal, mais dès la matinée pour l'Outaouais, secteur des Laurentides, Lanaudière, ce sera tôt tôt en début d'après-midi et l'Estrie un petit peu plus tard. Température maximale aujourd'hui, c'est du 9 à 11 degrés, 12 pour Montréal. En gros, les averses devraient cesser au cours de la nuit prochaine. Ça pourrait se poursuivre jusqu'à tôt demain matin en Estrie. Et demain, plutôt nuageux le matin, mais ça deviendra un mélange soleil-nuage par la suite. 6 à 9 degrés, ce sera encore venteux de l'ouest. Et on a une autre perturbation qui va nous toucher mercredi. Donc, plusieurs petits systèmes là, qui vont se succéder. Mm-hmm. Ça donnera également des précipitations sous forme de pluie du côté de l'Abitibi aujourd'hui, un 5 à 10 mm, assez venteux. Maximum de 5, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord. Donc, on y va avec un ennuagement. La pluie commencera cet après-midi au Saguenay, vers le Bas-Saint-Laurent aussi, 9, 10 degrés au thermomètre. Pas de pluie avant ce soir pour la Gaspésie et la Côte-Nord. Ciel variable aujourd'hui, 4 à 7 degrés comme maximum. On a beaucoup de vent en territoire ontarien également. C'est du 8 à 10 degrés pour la portion nord, 11 à 14 pour les régions plus au sud. Ottawa, la pluie commencera ce matin. Ailleurs, c'est assez nuageux avec quelques averses également. C'est assez dispersé. Dégagement prévu à Vancouver aujourd'hui, une dizaine de degrés. Ennuagement vers Edmonton, assez couvert déjà à Calgary, 7, 8 degrés. Et le beau temps continue vers Regina, Winnipeg, 9 degrés sous le soleil. Quand même pas mal de soleil là, pour l'Ouest canadien en ce début de semaine.
Merci beaucoup, Véronique.
Bonne journée.
Bonne journée. Au sport, Olivier Pellerin est avec nous. Bonjour, Olivier.
Bonjour.
Je sais que vous vouliez m'en parler plus vers la fin, là, mais... quel match de baseball, quelle série quand même. Je vais revenir là-dessus.
Là.
Moi, je voulais en parler là. J'ai écouté le match au complet. C'est presque la première fois de la série que je pouvais me le permettre. Oui, ça a été vraiment une belle série quand même entre les Dodgers et les Blue Jays.
On sentait que s'il y avait un match numéro 7, ça pouvait aller d'un côté comme de l'autre. Et ça a été effectivement un match soutenu jusqu'à la toute fin samedi. Effectivement, crève-cœur. Ouais. Il fallait voir les commentaires des joueurs après le match. Entre autres, je garde en tête Ernie Clement, les yeux dans l'eau, parler de ses coéquipiers comme des amis, des frères d'armes, dont il s'ennuiera au cours de la saison morte. Il aurait aimé passer plus de temps avec eux. Il aurait aimé certainement souligner ou célébrer plutôt une série mondiale, un titre à la maison, à Toronto, après avoir pratiquement tout fait sauf gagner dans ce match. Et encore une fois, Yoshinobu Yamamoto, qui est devenu une espèce de cauchemar pour non seulement les amateurs des Blue Jays, mais pour les frappeurs des Blue Jays dans cette victoire de 5 à 4 des Dodgers samedi. D'ailleurs, je ne voulais pas le tourner, le faire dans la plaie, mais j'allais quand même le mentionner en fin de bulletin. C'est aujourd'hui que les Dodgers célébreront leur deuxième titre consécutif à Los Angeles. Il y aura une fête aux alentours de 15h30, heure de l'Est, prévue au Dodger Stadium, donc pour célébrer ce titre, qui n'a pas été volé. Mais c'est vrai que les Blue Jays en ont fait beaucoup, beaucoup au cours de cette série mondiale.
Personne ne les voyait là, et certainement pas en septième match et en manche supplémentaire en plus.
Ils en ont fait beaucoup pour inquiéter les champions en titre, et ils en ont fait beaucoup aussi pour... mousser peut-être le baseball au Canada et au Québec. On a beaucoup entendu aussi ces commentaires de gens de Baseball Québec, de Baseball Canada, qui voient une recrudescence pour l'intérêt de ce sport. Et c'est vrai qu'autour, je ne sais pas si autour de vous ça a été le cas, mais dans mon entourage, il y a des gens qui ont commencé à me parler non seulement de baseball, mais de sport.
Oui.
Pour la première fois depuis un bon moment, des nouveaux partisans et partisanes qui ont regardé ça avec beaucoup d'intérêt, qui sont devenus des analystes le temps d'une série mondiale. Donc ça, je pense que c'est beaucoup d'acquis. Et c'est ce qui est intéressant aussi avec les Blue Jays, puis je terminerai avec ça en disant que c'est une jeune équipe, une équipe tissée serrée, une équipe qui pourrait faire un bon bout de chemin au cours des prochaines années avec ce qu'ils ont amassé cette année comme expérience. Puis Toronto devient effectivement une menace. Après, reste à répéter les exploits, reste à être menaçant au cours des prochaines années, puis être capable de confirmer, non seulement au monticule, mais au bâton. Mais il y avait tellement de belles choses qu'ils ont démontrées au cours de ces séries éliminatoires que c'est difficile de croire que cette équipe-là va s'éteindre au cours des prochaines années.
Effectivement. Moi, dans mon cas, je suis un peu biaisé. Mes deux enfants jouent au baseball, mon garçon et la fille. Fait que c'est sûr que ça parle beaucoup de baseball, puis on suivait ça avec beaucoup d'intérêt à la maison. Parlons maintenant de tennis. Deux finales impliquant des Canadiens, dont un titre, pardon, pour Victoria Mboko.
Oui, Victoria Mboko qui a décroché le titre à Hong Kong cette fin de semaine face à l'Espagnole Carolina Buxa, ce qui lui fait faire un bond de 3 rangs quand même au classement mondial chez les femmes de la WTA. Elle intègre maintenant le top 20. Elle est 18e au monde. Leilani Fernandez la suit au 22e rang. Mais ça témoigne de cette belle année tennistique, si je peux dire, féminin et masculin, mais avec l'éclosion de Victoria Mboko qui s'est fait à Montréal avec cette victoire à Montréal et qui se termine donc avec ce beau titre à Hong Kong. Hong Kong. Et on doit parler aussi des hommes parce que Félix Auger-Aliassime, lui, est en finale. On a parlé de l'importance d'une participation en finale pour lui. Il était au tournoi Masters de Paris, 1000 points à l'enjeu et surtout une place à ses finales de l'ATP, donc finale qui réunit les 8 meilleurs joueurs de la saison, de par les points qui ont été amassés cette saison. Félix Auger-Aliassime a débuté le tournoi, il était 9e derrière Lorenzo Musetti avec cette finale. Maintenant, il est 8e. Il est parmi ce top 8. C'est fragile, mais il est dans une bonne position pour y être à la fin de la saison. C'est après cette défaite hier en finale contre Yannick Sinner, qui prend le numéro 1 mondial, le premier rang mondial avec cette victoire. Encore beaucoup de positifs. D'ailleurs, on peut l'écouter parce que se mesurer contre Sinner, c'est souvent savoir là où on doit se situer pour être parmi les meilleurs au monde.
J'ai pas envie de trop me frustrer. Je veux dire, j'ai vécu des moments beaucoup plus difficiles par le passé. Mais j'ai envie de continuer à apprendre de ces matchs. D'approfondir mes réflexions et mon travail, à savoir comment je peux être un meilleur joueur. J'ai une grande envie de rivaliser avec lui et avec tous les autres joueurs pour être au plus haut niveau.
Félix Auger-Aliassime, donc, que l'on vient d'entendre. Un mot de patinage artistique, des patineurs qui ont brillé à la maison lors des internationaux de patinage Canada.
Ça se concluait hier, c'était à Saskatoon et c'est Piper Gillis et Paul Poirier qui ont pris le titre en danse sur glace. Il y avait aussi des Québécois qui étaient dans la course, Marjorie Lajoie et Zachary Laga, qui hier, avec un programme libre assez étoffé, assez bien patiné, se sont hissés, en fait, de la 4e à la 3e place, donc sur la 3e marche du podium. Donc, on est en préparation pour ces Jeux olympiques, donc dans cette saison de Grand Prix qui culminera justement avec cette finale des Grands Prix. Mais Piper Gillis et Paul Poirier qui s'imposent à nouveau comme des références ici au pays et à l'international.
Merci beaucoup, Olivier.
Un plaisir.
Bonne journée. Revue de presse ce matin à la une des quotidiens. Bien évidemment que ce qui retient l'attention, ce sont les résultats de ces élections municipales. Jean-Philippe va venir nous donner plus de détails. On va entendre également des gagnants, des perdants dans ce qu'il va nous résumer. Mais déjà, ce qui fait la une dans la région de Montréal, eh bien, c'est cette victoire de Soraya Martinez-Ferrada à la mairie de Montréal. Le Journal de Montréal titre « Une fille de la loi 101 à la mairie ». Rappelle que Catherine Fournier a gagné à Longueuil, Stéphane Boyer à Laval, Bruno Marchand à Québec, élu titre le journal par un vent de changement, alors que Luc Rabouin, lui, titre le journal de Montréal, a été boudé par les Montréalais. On fait également le tour là, avec une carte des changements dans certains arrondissements, parce qu'il y a des arrondissements qui étaient, par exemple, détenus par Projet Montréal, qui était le parti de Luc Rabouin, qui était mené jusqu'à hier par Valérie Plante, où certains élus ont été battus par des représentants d'Ensemble Montréal. Donc, tous les détails, toutes les réactions que vous pourrez lire dans le Journal de Montréal. Alors qu'évidemment, en une du Journal de Québec, eh bien, c'est cette victoire importante, un raz de marée pour Marchand, peut-on lire dans le Journal de Québec. Et la chroniqueuse Karine Gagnon qui dit « Coup des franges pour le tramway, Bruno Marchand gagne son pari haut la main en remportant non seulement la mairie, mais aussi une majorité grâce à laquelle il aura les coups des franges afin de poursuivre sa vision d'une ville tournée vers l'avenir plus verte, en plus d'avoir obtenu un signal clair pour le tramway. » Plusieurs ingrédients étaient pourtant réunis pour que Bruno Marchand se fasse talonner dans les intentions de vote durant la campagne, mais, écrit la chroniqueuse, il était très bien préparé. Et il s'est retrouvé aussi dans une position de rêve qu'il n'aurait sans doute même pas osé espérer. Il n'a pas eu temps à défendre son bilan, mais il y a eu une campagne où il y a eu des partis d'opposition qui se présentaient, en tout cas contre Bruno Marchand, qui se sont entre déchirés. Le soleil fait sa une, évidemment, avec cette victoire éclatante de Bruno Marchand, et la chroniqueuse Valérie Gaudreau écrit qu'on avait beau sentir que la victoire à la mairie était presque dans la poche. Faire élire 18 conseillers sur 21, c'est énorme. Bruno Marchand, écrit-elle, a gagné son pari après une campagne positive et sans fausse note, elle parle d'une domination labomienne de Marchand, en référence bien sûr à l'ancien maire de Québec, Régis Labombe. Du même souffle, les gens de Québec ont rejeté sans détour l'espoir de Sam Ahmad de revenir en politique. Donc, vous aurez les résultats pour la région de Québec, entre autres dans Le Soleil. En une du Devoir, il est question également de l'élection de Soraya Martinez-Ferrada à la mairie de Montréal. Et l'éditorialiste Brian Miles écrit que Soraya Martinez-Ferrada, Stéphane Boyer et Catherine Fournier, donc Montréal, Laval et Longueuil, c'est les trois maires et mairesses élus dans la communauté de Montréal, misent rapidement sur l'art de la concertation. Ils vont disposer d'un rapport de force intéressant face au gouvernement du Québec pour la prochaine année. On est en année préélectorale quand même. Le gouvernement Legault frôle l'implosion. Il sera mobilisé par la recherche de conditions pour sa propre survie. Puis de l'autre côté, écrit Brian Miles, il y a les péquistes, les libéraux qui vont solliciter tous les appuis possibles pour se positionner pour comme le parti pouvant donc remplacer la CAQ. Et donc, il pourrait y avoir un avantage de réclamer une redéfinition du contrat politique fiscal entre les trois plus grandes villes et le gouvernement du Québec et en faire un enjeu important au scrutin du mois d'octobre 2026, parce qu'on sait qu'il y a bien des éléments qui se passent dans les villes, mais les villes ont besoin souvent d'aide des paliers supérieurs de gouvernement, qu'on pense à l'habitation, qu'on pense à l'itinérance. Ce sont des sujets qui ont retenu l'attention tout au long de cette campagne électorale. Donc, à lire l'éditorial de Brian Miles. En une de la presse, le quotidien titre « Changement de garde ». Évidemment, on revient donc sur cette victoire de Soraya Martinez-Ferrada à la mairie de Montréal. Et cette fois, c'est le chroniqueur Maxime Bergeron qui écrit « Une nouvelle mairesse, 100 jours pour transformer Montréal ». Bon, on pourra faire bien des analyses, mais au final, dit-il, la raison fondamentale de la défaite de Projet Montréal, c'est qu'il y a bien des Montréalais qui ne se sont pas sentis écoutés, en tout cas pas assez au cours des 8 dernières années, écrit Maxime Bergeron dans la presse de ce matin. Ils en ont eu assez d'une certaine manière de diriger, axée davantage sur l'application de principes vertueux que sur la réelle consultation dans bien des dossiers. Et puis, ils ont fait confiance, au final, selon lui, à celle qui a promis de leur redonner voix au chapitre, Soraya Martinez-Ferrada. Son slogan est peut-être simple, voire simpliste, mais la politicienne, donc, a touché une corde sensible alors qu'une frange importante des Montréalais s'est sentie déconsidérée plutôt au cours des dernières années. Donc, vous pourrez lire ça en une de la Presse Plus de ce matin. Il y a bien d'autres nouvelles, évidemment, dans les quotidiens ce matin. Et ce qui retient l'attention au Canada anglais, The Globe and Mail, qui titre le budget de Carney sera un test pour sa capacité d'attirer, évidemment, des investisseurs et faire en sorte que les compagnies au Canada puissent investir aussi dans leur production. Avec l'incertitude avec les États-Unis, avec cette guerre commerciale, avec l'imposition de ces tarifs. Donc, évidemment, qu'on revient sur ce budget qui sera d'ailleurs présenté demain. Ça va certainement faire partie de l'émission de demain, ce budget fédéral. Premier budget, on l'attend depuis longtemps, ce budget au fédéral. Et on revient encore une fois dans les quotidiens, que ce soit le Toronto Star, le Globe and Mail, sur cette défaite des Blue Jays. Bilan, donc, de saison, réaction, encore une fois, d'amateurs et analyse. C'est ce que vous pourrez lire, entre autres, dans le Globe and Mail ce matin. Jean-Philippe Robillard est maintenant avec nous en studio. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Mathieu.
Alors je le disais, oui, il y a eu du changement à certains endroits, de la continuité ailleurs. On pense à Québec, Laval, Longueuil, à Montréal. Mm-hmm. Bien, il y a eu du changement avec Soraya Martinez-Ferrada, donc qui va faire son entrée à l'Hôtel de Ville.
Oui, et qui devient la deuxième femme après Valérie Plante, donc élue mairesse de Montréal. Elle devient également la première personne, Mathieu, issue de la diversité culturelle à la tête de la ville, Mme Martinez-Ferrada, donc qui a été élue facilement, on pourrait dire. Mm-hmm. Elle a recueilli environ 43 % des voix. Elle a aussi remporté, ça c'est important, la majorité des sièges au conseil. Son principal adversaire, Luc Rabouin, du parti Projet Montréal, ça c'est le parti de Valérie Plante, a obtenu 35 % des voix. Et dans son discours de victoire, la nouvelle mairesse de Montréal qui a lancé un appel à l'unité, comme c'est souvent le cas, elle a également tenu à rappeler que Montréal est et doit demeurer une métropole. On l'écoute.
Nous vous avons entendu sur Camilien Houd, sur l'itinérance, sur le logement, sur la propriété, sur la mobilité, sur la sécurité. À ceux qui doutent, qui hésitent, puis qui pensent à quitter Montréal, moi, ce que je vous dis, ne partez pas.
Oui, il y a bien des gens qui ont décidé justement de quitter Montréal au cours des dernières années, effectivement. Oui. Taux de participation officielle à cette heure-ci, en tout cas, un peu plus de 35 %. Ça reste assez faible quand même pour Montréal, ce taux de participation. Il y a, je le disais, plusieurs maires dans les villes importantes qui ont été réélus.
Oui, c'est le cas à Québec où le maire Bruno Marchand revient en poste. Il a été réélu avec 49 % des voix. Il a aussi obtenu une majorité au conseil, même s'il avait deux adversaires là, qui tentaient de le renverser pour mettre fin, entre autres, à son projet de tramway. On écoute le maire Bruno Marchand.
Ce que les citoyens ont dit ce soir, au-delà du tramway, c'est pas la question de l'urne. On a envie que notre ville avance. On a envie que ça bouge. On a le financement. On est prêt. On a envie que cette ville-là, dans une situation économique assez instable, bien, que les bénéfices économiques amenés notamment par les investissements publics sur le tramway et privés autour de la création du logement, on a envie de regarder de l'avant.
Victoire aussi importante à Longueuil où la mairesse Catherine Fournier a été réélue, Mathieu, rapidement, on pourrait même dire très facilement, oui, avec 88 % des voix. Il n'y a pas eu de suspense là-bas. Elle a également obtenu la majorité des voix au conseil. On écoute un extrait de son discours de victoire.
Je dois dire, chers amis, si en 2021, on parlait d'une vague, ce soir, ça ressemble plus à un tsunami. Depuis notre entrée en fonction, Longueuil réussit, Longueuil rayonne et Longueuil avance. Et c'est ce qui explique le caractère aussi clair et tranché de la décision de nos concitoyennes et concitoyens ce soir.
Et, oui, et à Laval, hein, sur la Rive-Nord, le maire Stéphane Boyer revient lui aussi en poste. Il a recueilli près de 59 % des votes, majorité également pour lui au conseil. Réélection également à Gatineau, en Outaouais, où Maude Marquis-Bissonnette a remporté un deuxième mandat au terme d'une campagne électorale qui a été très serrée.
Ouais, les résultats sont assez serrés.
Assez serrés, hein? Effectivement. Il a obtenu 51 % des voix contre 47 % pour Mario Aubé, là, qui était son principal et seul adversaire, je pense.
Maintenant, il y a eu effectivement des gens du gouvernement, d'autres paliers de gouvernement, beaucoup du fédéral, qui étaient candidats à cette campagne électorale. Quels sont les résultats dans leur cas?
Ben, c'est le cas, par exemple, de Marie-Claude Bibeau, l'ancienne ministre dans le gouvernement Trudeau, qui devient mairesse de Sherbrooke. Elle a récolté 47 % des voix. Elle se présentait comme candidate indépendante. On l'écoute après sa victoire.
Ben, c'est sûr qu'en 10 ans, au fédéral, à présider des instances qui soient soit au niveau des ministères, mais au niveau pan-canadien et même au niveau international, ça m'a permis de voir différentes pratiques puis de pouvoir aller piquer les meilleures pratiques.
À Lévis, c'est l'ancien ministre Stephen Blaney dans le gouvernement de Stephen Harper qui a été élu à la tête de la ville avec 43 % des voix.
Oui, et donc il ne reste à peu près plus rien du parti de Gilles Laulier qui était maire pendant bien des années.
De nombreuses années, effectivement.
À Lévis, d'abord. Donc tout un changement avec Stephen Blaney, donc nouveau maire sur la rive sud dans la région de Québec. À Saguenay, ça c'est particulier. À cette heure-ci, là, au moment où on se parle, oui, et j'ai revérifié encore, on n'a toujours pas les résultats finaux. On ne sait pas qui va être élu maire ou mairesse de ville de Saguenay.
Oui, effectivement, on ne sait pas encore. Et la lutte, elle est serrée. Le dépouillement, vous l'avez dit, n'est pas terminé. Il doit reprendre ce matin autour de 8 heures. Il n'y a que quelques centaines de voix, là, semble-t-il, qui séparent l'ex-ministre des Affaires municipales là, dans le gouvernement Legault, André Laforêt, de son adversaire, là, l'ancien président de la fromagerie Boivin, Luc Boivin. Donc, ça doit reprendre ce matin le dépouillement. Et un mot pour vous dire en terminant que ce matin également, il y a toujours 9 postes de maire et 40 postes de conseiller qui n'ont pas été comblés. Pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de candidat. Alors, il devra donc y avoir, en vertu des règles en vigueur, un nouveau scrutin d'ici le 1er février.
Merci beaucoup pour ce compte-rendu, Jean-Philippe. Voilà. Et voyez, merci à Saguenay, là, selon le site de Radio-Canada, 453 voix d'avance peu, hein? De Luc Boivin sur André Laforêt. C'est très peu. Une quinzaine de boîtes encore à dépouiller. Ça va reprendre à 8h30 ce matin. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais, auront bien sûr une couverture complète de ces élections si, bien sûr, vous êtes au Québec. Très bonne journée. À demain.